Chapitre 7. Le lendemain et les jours suivants, Claude Forest reprit ses démarches avec une persévérance obstinée, mais sans résultat. Il vit des éditeurs de tous les tempéraments, de bourrus, de colériques, de pessimistes, d'enthousiastes, d'abattus, tous parfaitement disposés à éditer le jeune compositeur à ses frais, mais non autrement. Claude ne comptait plus ses déconvenus depuis qu'il avait dépassé le nombre fatidique qu'il croyait devoir être le terme de ses épreuves. Chaque soir, il rentrait chez lui, le visage impassible, et répondait « rien encore » aux questions anxieuses d'Olive. Il se raidissait extérieurement contre toute défaillance, mais son entrain l'abandonnait. Ce n'était qu'une sorte de ténacité machinale qui le soutenait encore. Il voulait aller jusqu'au bout de sa lice, épuiser toutes les chances, sans espérer qu'aucune tournât en sa faveur. La sympathie d'Olive était son plus grand réconfort, bien qu'elle se traduisît parfois d'une manière assez étrange. « Quelle énergie vous avez !» disait la jeune fille. « Vous mériteriez bien de réussir. Ces éditeurs sont des monstres. Ils ont le cœur endurci, comme autrefois Pharaon. » Oh, si pourtant vous vouliez croire aux signes et aux directions, quand tout vous barre la route, c'est pour vous avertir de prendre notre chemin. Je sens, au contraire, quelque chose qui me pousse en avant, malgré les obstacles, répondait Claude. N'est-ce pas là ce que vous appelez une direction ? Olive soupirait, et le lendemain, avec sa douceur obstinée, reprenait le même argument. Claude avait songé un instant à emprunter à son ami l'organiste l'argent nécessaire au lancement de sa composition, mais il avait horreur des dettes. Sa bagatelle pouvait n'avoir aucun succès. Si l'édition entière lui restait sur les bras, comment s'acquitterait-il de ses obligations? Mieux valait s'en tenir à une méthode plus lente, épargner bribe à bribe sur ses modestes ressources la somme de 60 livres que M. Simpson exigeait comme passeport des jeunes talents. Épargner, c'était se refuser opéra et concert, le seul luxe que lui permit la modicité de son budget. Claude s'y résigna de bonne grâce et trouva même un certain charme à ce sacrifice. Les privations lui étaient moins pénibles que l'attente passive d'une heureuse chance qui n'arrivait pas. Il calcula qu'en usant de toute l'économie possible, il lui faudrait une année ou 18 mois pour mettre de côté une somme suffisante et il résolut de chercher d'autres ressources. Il y rêvait un matin en allant à son bazar. Plein de fiévreuse impatience, il se demandait à quoi donc servent le talent, l'énergie, la jeunesse, si un misérable obstacle matériel suffit pour les paralyser. Il voyait devant lui ces longs mois arides qu'il lui faudrait traverser pour arriver à son but, ces journées d'insipide labeur qui tuaient sa verve. Quand la vie est si courte et qu'on a devant soi un champ immense, comment ne s'irriterait-on pas de la longueur des saisons mortes? Claude Forest, pareil au possesseur d'une terre fertile, soigneusement ensemencée et qui pourtant reste inféconde, savait qu'un rayon aurait suffi pour faire éclore et verdir tous les germes cachés. Mais le ciel était gris, uniformément gris, il fallait attendre une éclaircie. « La vie est une gaspilleuse », se disait Claude, en marchant toujours plus vite. « Avec les heures précieuses qu'elle gâche, les forces vives qu'elle laisse sans emploi et les nobles instruments qui se rouillent dans les coins, on ferait de grandes choses. » En arrivant au bazar, il trouva qu'une lettre l'y attendait. Il ouvrit avec un peu d'étonnement. L'enveloppe contenait une grande carte de Bristol délicatement parfumée, annonçant que Madame Bertram Capel donnerait le mercredi suivant une matinée musicale et qu'elle priait M. Claude Forest de lui faire le plaisir d'y assister. Le jeune homme restait immobile, le coude appuyé sur le piano, les yeux fixés sur l'écriture large et négligée qui devait être celle de Tom Capel. Un espoir lui venait. Qui sait si le ciel gris n'allait pas s'éclaircir? Qui sait si des amis, inconnus encore, n'étaient pas prêts à lui donner ce point d'appui dont il avait besoin? La réaction exagérée, qui, dans une nature élastique et jeune, suit toujours un excessif découragement, se faisait déjà en Claude. Le baromètre de ses espérances remonta tout à coup, plus vite que de raison, sans doute, et Claude se reprit à croire à la bienveillance du sort qu'il apostrophait 5 minutes auparavant avec tant d'amertume. Pourquoi donc, après tout, la mauvaise chance s'acharnerait-elle contre lui? Il calomniait la vie, elle ne lui avait pas été si cruelle jusqu'ici. Il est vrai qu'après l'avoir amené à l'entrée de la voie, elle le retenait sur le seuil, sans égard pour son impatience, mais tout était pour le mieux, sans doute, il reconnaîtrait plus tard. Le soir venu, il fut d'un saut chez lui, pressé de faire part à Olive de ses nouvelles espérances. « Madame Capel m'a invitée aussi, » dit la jeune fille, de ce ton doucement résigné qu'elle prenait aussitôt qu'il était question de musique. « Et vous avez accepté, j'espère. »« Quel plaisir vous trouvez à me taquiner, » fit-elle. « Je voudrais bien que Madame Capel renonçât une fois pour toutes à m'inviter quand on fait de la musique chez elle. Elle prétend que ce sont des occasions de me perfectionner, mais je ne tiens pas le moins du monde à me perfectionner. » « Merci. Si je vous trouvais là mercredi, j'aurais 100 fois plus de plaisir, » dit Claude. « Au contraire, vous verriez que je m'ennuie à mourir et vous en seriez vexé. Vous êtes très susceptible sur ce chapitre. Et puis, en revenant à la maison, vous me demanderiez si j'ai aimé ceci, cela. Moi, je répondrais tout de travers, sans compter que j'aurais la migraine. « Avouez, Miss Beaumaris, » dit Claude légèrement impatienté, que votre horreur de la musique est une originalité un peu voulue et qui menace, excusez-moi, de tourner en manie. « Nous ne nous entendrons jamais sur ce point, » répondit-elle avec un soupir. « Qu'importe, » fit Claude qui regrettait déjà sa vivacité. « Nous nous entendons sur beaucoup d'autres, n'est-ce pas ?» Mais elle secoua la tête et soupira de nouveau. C'était ainsi que finissaient presque tous leurs entretiens. Jusqu'au mercredi, Claude vécut en Allegro, malgré le brouillard, malgré les rebuffades des deux derniers éditeurs de sa liste, qui se trouvaient enrhumés de fort méchante humeur quand il alla les voir. Il avait, disait-il, le pressentiment que quelque chose sortirait pour lui de cette matinée musicale. En attendant, il retouchait une fort jolie mélodie qui lui chantait dans la tête depuis quelque temps et dont il fit une valse charmante. Il y mit toute sa jeune verve, toute l'entraînante gaieté de ses espérances. « Je suivrai le conseil de l'Italien, se dit Claude, et je donnerai à ma valse un nom français. Elle s'appellera Couleur de rose, puisque les mamans, elles aiment cela. » Le mercredi arriva. Claude sollicita un congé et à 3 heures, il entrait sous l'égide de son ami Tom dans le petit salon où Madame Capel se tenait pour recevoir ses invités. « Imaginez, mon cher, que je suis dans le programme, » fit Tom à demi-voix. « Ma mère s'est mise dans l'esprit que j'ai un joli ténor. Du reste, il n'y a pas à le nier, nous avons tous le sentiment musical dans notre famille. Écoutez, Forrest, j'ai chanté vos louanges, n'allez pas me démentir. Vous verrez que, dans le monde des artistes, chacun se fait valoir. C'est très bien porté, et puis cela renseigne les profanes qui en sont bien aises. » Si je dis, par exemple, « J'ai un splendide ut de poitrine, je ne l'ai pas, mais c'est une supposition, ou bien je compose des romances exquises, chacun sait ce qu'on peut attendre de moi. Vous comprenez ?»« Je crains, dit Claude, d'être encore bien imbu de préjugés. Il me serait impossible de parler de moi comme si j'étais une autre personne. »« Vraiment, mais vous y viendrez. » « Laissez-moi vous présenter à ma mère. » C'était une dame de haute taille et d'un majestueux embonpoint, vêtue d'une robe de satin broché, sur le vaste corsage de laquelle s'étalait une flamboyante croix de rubis. Elle tendit la main à Claude et lui dit en français « Comment va ?» Persuadée, ainsi que beaucoup de ses compatriotes, que ces deux mots sont la traduction élégante et correcte de la formule anglaise « How do you do ?» Du reste, Claude s'aperçut bientôt que chez Madame Capel, chacun se faisait un devoir de parler la langue qu'il savait le moins. Les Anglaises parlaient français, les Allemands, en petite minorité d'ailleurs, parlaient anglais et français, et les Italiens mélangeaient agréablement tous les idiomes. Du petit salon vieillot, Claude passa dans le grand salon de musique, dont le fond était occupé par une estrade couverte d'un tapis de Smyrne. un beau pléiel sur lequel on avait posé une large coupe de vieux Japon pleine de roses et d'orchidées rares, était ouvert à l'un des bouts de l'estrade. Plusieurs rangées de chaises étaient déjà occupées par les dames, tandis que les hommes restaient debout et formaient dans les embrasures ou sous les portières de petits groupes où la vivacité italienne faisait un étrange contraste avec l'impassibilité britannique. Un petit homme brun gesticulait et s'agitait comme un diable dans un bénitier en face d'un grand gentleman maigre et blond qu'il regardait du haut de sa tête avec une curiosité polie. « Ah, mon cher monsieur, vous entendrez la diva Canales. Elle chantera une petite romance que j'ai faite et vous pleurerez, mon cher monsieur. Je vous dis que vous pleurerez. » L'anglais secoua la tête d'un air de protestation indignée. « C'est que vous ne la connaissez pas, la diva Canales. Elle a une voix qu'elle entre par ici, il plongea la main dans son gilet, et qu'elle vous tortille le cœur, mon cher monsieur, avec des notes qui sont comme des tenailles rougies. Moi, je pleure comme une bête quand la diva Canales, elle commence à chanter, et quand elle a fini, je fais comme ceci, voyez-vous. » Il tordit son mouchoir de poche d'un geste si expressif et si naturel que son interlocuteur recula instinctivement, comme s'il craignait d'avoir les pieds mouillés par cette lessive de larmes. Claude, debout non loin d'eux, écoutait ce dialogue et s'en amusait infiniment. La diva Canales, que Tom venait de lui montrer au milieu d'un groupe de jeunes misses placides, était une grande femme brune et maigre qui ressemblait vaguement à un cheval, avec ses longues joues osseuses, son menton court et ses immenses yeux noirs à fleur de tête. Elle portait une robe de velours terracotta, un lourd collier d'ambre et agitait un grand éventail jaune qui papillonnait incessamment. Ses gestes étaient tragiques, ses intonations frémissantes. Elle porta un verre d'eau à ses lèvres en détournant les yeux comme si c'eût été une coupe empoisonnée, puis sourit avec mélancolie. On eût dit qu'elle prenait congé de l'existence. Elle est très passionnée, dit Tom Capel, qui se tenait à une distance respectueuse de la diva. Quand ses enthousiasmes la prennent, elle tombe dans les bras de n'importe qui. Un homme averti en vaut deux, dit Claude en riant. Ah, voilà quelqu'un que je connais. L'étranger qu'il avait trouvé en tête à tête avec M. Simpson 15 jours auparavant entrait en cette minute par la porte opposée, ayant Madame Capel à son bras. C'est le signor Zambali, dit Tom. Ma mère le tient pour un génie. Elle l'a lancé l'année dernière. C'est avec lui qu'elle a composé l'opérette dont ma sœur a fait le libretto et que nous donnerons prochainement au profit de la société propagatrice de la paix universelle par le moyen de la musique. Voici ma sœur qui se dirige justement de notre côté. Elle sera charmée de faire votre connaissance. Miss Capel était une jolie jeune fille qui manquait absolument de naturel. Sa grande préoccupation était de passer pour une étrangère et, comme elle avait les yeux noirs et le teint mat, les pommettes légèrement saillantes et un accent méridional soigneusement cultivé, on aurait pu la prendre à première vue pour une Marseillaise. Mais la greffe n'avait réussi qu'à demi et le mélange des deux sèves donnait un genre hybride singulièrement désagréable. C'était la volubilité française sans sa grâce, la mimique italienne sur un fond de gaucherie anguleuse qui perçait constamment. « Nous n'attendons plus que le signor Carambolini, » dit-elle à son frère. « Je lui avais bien recommandé d'être exact, mais il est incorrigible, le méchant. » Elle haussa les épaules. C'était un geste exotique dont elle ornait sa conversation, le plus souvent hors de propos, et qui faisait croire aux non-initiés que l'entournure de ses manches la gênait. « Je sais, » poursuivit-elle en se tournant vers Claude, « que vous êtes vraiment des nôtres par la ferveur de votre dévouement à la musique. Nous avons horreur des tièdes. Nous nous admirons les uns les autres avec enthousiasme. Tenez-vous-le pour dit. » Claude fit ce qu'on attendait de lui. Il répondit à cette mise en demeure par un compliment que Miss Capel reçut avec un haussement d'épaule fort mutin.